bien le médecin, le patient, les hôpitaux, la pharmacie et même les sapeurs-pompiers et vice-versa. Donc, Apollo permet de créer une base de données fiable, à jour, des Africains qui permettra de faire du knowledge management.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire appliquer les techniques de data science, machine learning et de l'intelligence artificielle pour produire une cartographie de la santé, visant à prévenir et à contenir les pandémies, endémies et autres maladies transmissibles et non transmissibles. Donc, Apollo facilite un déploiement de plusieurs campagnes de sensibilisation et de vaccination. Et aussi, nous avons une manière très efficace de gérer les ressources humaines disponibles parce qu'il faut savoir que nous sommes un des faibles en Afrique.
Vous voulez dire que nous, les Africains, nous sommes mal desservis et c'est l'un des défis que veut relever Apollo.
C'est une plateforme qui touche à tout. Comme en Afrique, on ne le dira pas assez, on accuse une lenteur incroyable dans toutes les démarches administratives. Et eux ne pouvons que s'ajuster à cela en espérant l'améliorer. Mais Apollo en lui-même permet à tout individu lambda d'avoir déjà son healthcare record, je dirais son carnet de santé à portée de main, d'être connecté à un médecin direct et d'avoir accès à celui-ci à n'importe quelle heure parce que ce dernier n'aura pas à chercher. Il aura votre carnet médical et toutes vos informations en face de lui pour même lorsqu'il sera à distance, donner des conseils au médecin traitant qui sera présent ce jour-là.
Et ça, ça va forcément améliorer la santé en Afrique.
On évite la malpractice, comme on le dit en fait en français, ça permet d'éviter les erreurs médicales et consorts.
Est-ce que ça veut dire, Cheikh, que n'importe qui peut avoir accès à Apollo, tout le monde peut utiliser cette application?
Yes, tout le monde peut utiliser l'application.
Quand est-ce que l'application Apollo pourrait-elle être accessible au public?
À partir du 4 décembre, tout Africain, quelle que soit sa situation géographique, pourra télécharger l'application sur l'App Store et Google Play. Ensuite, nous avons la
campagne. Mais ça sera coûteux?
Pardon?
Combien ça va coûter?
0 francs, parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est au-delà de notre personne. Nous ne cherchons pas à nous enrichir ici.
L'utilisation de l'application Apollo sera-t-elle gratuite?
C'est complètement gratuit. Notre objectif n'a jamais été de s'enrichir, mais d'aider l'Afrique à obtenir une place de qualité dans le Conseil des Nations. Nous avons des soutiens de taille à travers George Washington University, la National Science Foundation, qui est l'entité qui a rendu le rêve Google une réalité. Nous avons Amazon, AWS, Salesforce et bien d'autres. Donc la population africaine est notre priorité. Alors, ce service, cette application sera gratuite, entièrement gratuite pour l'Africain lambda.
Et vous étiez en train de parler d'une campagne de vaccination, laquelle?
Yes, nous avons une campagne Women Children.
Vous voulez dire la mère et les enfants en français?
C'est le nom de notre campagne qui sera lancée en janvier. À travers cette campagne, nous avons pour objectif de rendre la grossesse agréable.
Wow.
C'est-à-dire toute femme enceinte à compter de janvier 2020 pourra se faire suivre par un docteur et une sage-femme.
Grâce à Apollo?
Oui, grâce à Apollo tout au long de sa grossesse. Ceci permettra de réduire le risque de grossesse et plus loin de suivre la santé mentale de la mère parce qu'il y a des situations post-traumatiques après l'accouchement et tout.
Cela signifie-t-il que grâce à Apollo, les femmes seront suivies même après l'accouchement?
Pendant la grossesse et après la grossesse, la mère sera suivie. Vous savez que le pourcentage de la mortalité maternelle en Afrique subsaharienne compte pour 62% du taux mondial et 50% des nouveaux-nés en Afrique subsaharienne. 50% des morts des nouveaux-nés dans le monde se retrouvent en Afrique subsaharienne. C'est pour lutter contre ce fléau que nous avons décidé de lancer cette campagne-là. Ça nous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Et sachant que l'Afrique aura une population de 2,5 milliards, à l'orée de 2050, c'est-à-dire on aura pratiquement doublé notre population. Il faut qu'il y ait un suivi très, très précis de toutes ces grossesses pour protéger la mère, pour protéger l'enfant. Donc, cette campagne sera lancée à partir de janvier.
Concrètement, comment ça va se passer? Si le médecin est dans la capitale et puis la femme enceinte, elle est dans un village, comment est-ce que le suivi va se faire?
Comme je le disais tantôt, Apollo permet la distribution des ressources humaines sanitaires. Lorsqu'une femme, à travers l'application Apollo, déclarera qu'elle est enceinte, on lui donnera immédiatement toute sa liste de rendez-vous avec le docteur le plus proche.
Et le médecin aura déjà accès à toutes les informations de ses malades.
Le docteur qui sera le plus proche d'elle sera immédiatement affecté pour la suivre. C'est-à-dire il aura son carnet de santé et tout à portée de main pour qu'il puisse faire des précisions et des analyses chaque jour.
J'aimerais savoir si la sage-femme est aussi impliquée dans ce processus et puis quel est le rayon de distance entre la patiente et le médecin. entre la femme enceinte, bien sûr, et le médecin.
Il y aura maintenant une sage-femme qui sera encore, nous essayons de mettre dans un rayon de 5 km pour qu'elle puisse vraiment être en amont de toute situation. Elles seront les premiers points de contact avec le docteur. Pendant le quotidien de la grossesse, elle pourra contacter la sage-femme pour n'importe quel soin. Et lorsque la sage-femme se verra dans le besoin de partager avec le docteur pour qu'il puisse faire d'autres prescriptions, elle pourra le lui redire. Notre objectif, c'est d'assigner un docteur à chaque femme et une sage-femme qui sera très proche d'elle, qui la suivra pendant toute la grossesse.
Ça sera vraiment super. Hein. On attend le moment. Merci. Et puis on pourra discuter aussi avec les utilisateurs d'Apollo pour voir quelles sont les merveilles que ces personnes vont découvrir ou vont vivre grâce à Apollo.
Je serai ravi d'écouter le feedback.
Où est-ce qu'on peut utiliser Apollo en ce moment-ci?
Apollo, c'est venant des SCB Systems. L'objectif, c'est de servir l'Afrique. Donc, Apollo, pour apporter africaine, mais comme l'adage le dit, la charité bien ordonnée commence par soi. En tant qu'Ivoirien, nous avons commencé par la Côte d'Ivoire.
Quels sont les différents volets qu'on peut trouver dans l'application Apollo?
Avec Apollo, nous avons plusieurs volets. Nous avons le volet hôpital est tellement gigantesque. En ce moment, nous préparons l'implémentation d'Apollo dans un hôpital public en Côte d'Ivoire, centre hospitalier public. Pour cela, il va falloir revoir tout le backbone complet de la connectivité pour permettre aux hôpitaux africains d'être à la pointe. Nous sommes en Côte d'Ivoire, je pense aussi au Burkina.
Êtes-vous déjà en contact avec les autorités burkinabées?
Nous avons entamé avec le Burkina quelques conversations pour qu'on puisse mieux s'étendre dessus et voir comment nous pourrons lancer Apollo. C'est beau bien de dire, c'est bien beau la moderne, la mondialisation, mais il n'y a rien de meilleur que l'aspect local qui est en cinétique et irréprochable. C'est-à-dire des Africains au-devant des choses qui sont en train de mettre leur population, leurs frais en priorité pour une qualité de vie.
Pour réaliser tout cela, vous avez besoin de travailler aussi en collaboration avec les autorités. Comment se passe votre collaboration avec les gouvernements locaux et les autorités sanitaires des endroits où vous avez choisi de travailler?
Notre collaboration avec le gouvernement ivoirien se passe bien. Nous avons deux ministères en Côte d'Ivoire qui touchent réellement à notre domaine. Il s'agit du ministère de l'économie numérique et celui de la santé. Ils ont été très heureux de la solution Apollo. J'ai été en Côte d'Ivoire en juin passé.
Je sais que la Côte d'Ivoire, c'est votre pays, mais j'aimerais savoir si vous avez un contrat avec les autorités ivoiriennes.
Apollo est multidimensionnel. L'importance que donne le ministère de l'économie numérique, qui a plus d'expertise technologique, est très, très encourageante. En Côte d'Ivoire, le président, son excellence Ouattara, a une politique tournée vers la jeunesse. C'est dans cette logique que le premier ministre, le ministre des Affaires présidentielles, encourage toute innovation portée par la jeunesse et bien sûr par la diaspora que nous représentons. Nous sommes en phase de signature d'une convention très bientôt avec le gouvernement ivoirien. Avec le Burkina, comme je l'ai dit tantôt, nous entamons la communication.
Est-il facile de gérer toutes ces initiatives?
Ce n'est pas facile d'être africain. Proposer une solution aux normes internationales qui est déjà encensée aux États-Unis. Il y a des sociétés très puissantes qui seront immédiatement concurrentes, sachant qu'elles ne proposent jamais des solutions adéquates. Nous sommes les seuls à mesure de régler le mot africain. Il ne s'agit pas de calmer, mais de guérir. Nous avons plus de chances de trouver la racine de nos mots que quiconque qui n'a jamais vécu en Afrique. La pratique apporte une expérience différente de la théorie. Nous voyons plusieurs institutions internationales qui vont en Afrique, qui disent qu'elles ont des solutions pour régler, mais l'Afrique ne change jamais. Le philosophe Socrate l'a dit, « The measure of a man is what he has with the power. » Qu'est-ce qu'un homme fait lorsqu'il est en position de pouvoir?
Et pour vous, offrir Apollo aux Africains, c'est leur offrir un certain pouvoir.
Je suis rassuré que chaque Africain, à travers votre canal, adoptera Apollo en décembre et effectuera le bilan annuel de santé à moindre coût que nous proposons. C'est 1,3 milliard d'habitants. C'est l'Eldorado. Il faut qu'elle soit en bonne santé pour que nous puissions entamer cette phase de développement. Tiens tout à cœur.
En dehors de la campagne de la femme enceinte, pour qu'elle soit bien suivie, quels sont d'autres projets que vous comptez mener grâce à Apollo?
Déjà, avec Apollo, le bilan annuel de santé se fera à travers Apollo à moindre coût. Je pense que nous en avons déjà parlé et notre solution, c'est de vulgariser le bilan de santé. Nous voulons amener chaque Africain à connaître son état de santé. À partir de décembre, dès que l'application pourra être téléchargeable, en Côte d'Ivoire, bien sûr, pour un départ, nous aurons en charge tous les éléments disponibles pour chaque Ivoirien déjà faire son bilan de santé.
L'application Apollo s'intéresserait-elle aussi à la couverture maladie?
Lors de notre dernier séjour en Côte d'Ivoire, nous avons discuté avec la CMU, la couverture maladie universelle qu'ils ont en place là-bas. Je pense qu'en ce moment, il faut une couverture plus totale. Apollo peut régler cette situation en un rien de temps. Nous allons nous pencher sur ce cas parce qu'il serait très, très agréable de voir tout Ivoirien assuré et à mesure de se soigner à moins de coûts. Voilà un peu qu'est-ce que nous avons en phase en ce moment pour développer tout.
Comme vous l'avez dit, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire en Afrique, il y a beaucoup de pays. En combien de temps comptez-vous couvrir le reste de l'Afrique ou un minimum de pays africains?
L'Afrique de l'Ouest, dans notre planification, doit être couverte sous 6 mois. Lorsqu'on dira le mois de mai, on aura couvert la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, de là, nous allons aller vers l'Afrique australe et l'Afrique du Sud. L'Afrique subsaharienne est la partie la plus touchée, donc nous allons la couvrir en entièreté avant d'aller en Afrique du Nord.
Est-ce que vous êtes intéressé à vous engager dans des partenariats avec d'autres structures?
Nous sommes vraiment ouverts à travailler en collaboration avec tout gouvernement intéressé qui voudra bien mettre son peuple et le bien-être de son peuple au centre de sa politique de développement.
Pourquoi avoir donné à l'application le nom Apollo?
Apollo, en grec ancien, le dieu grec le plus puissant. D'ailleurs, il est considéré comme le dieu de la santé aussi. Donc, Apollo, pour nous, couvrait complètement assez notre objectif de couvrir l'Afrique, d'améliorer la santé. Mais plus loin, je peux vous donner une anecdote. Mon meilleur ami Ismaël Grandbouté, nous lui avons donné un petit nom, Papalo. Apollo et Papalo rimaient ensemble et donc nous avons opté pour Apollo.
Quel est le processus de mise à disposition d'une application mobile en santé? Combien ça vous a pris le temps?
Bon, en général, tout d'abord, il faut avoir une raison pour la création d'une application mobile en santé. Ensuite, il y aura 5 étapes que je définis comme la validation du modèle de business.
Et quelles sont ces 5 étapes?
L'étape de la confirmation des fonctionnalités, l'étape du design de l'application, l'étape de l'élaboration de la sécurité et de la conformance aux lois en vigueur dans chaque pays, et l'étape du développement de l'application pour terminer. Avec nous, Arlo, nous sommes maintenant à 19 mois en fait de développement. Nous avons pu avoir la chance d'avoir différents dons de la part d'Amazon, 100 000 dollars par-ci, 50 000. Nous avons été chanceux d'avoir un produit qui fait l'unanimité. À George Washington University, le directeur de l'innovation était juste ému. Il dit « Wow, c'est so big ». On dira que c'est une chance d'avoir un truc qui est, pour le moment, l'innovation la plus adaptée aux problèmes africains.
Est-ce que vous êtes vous-même satisfait de ce que vous réalisez à travers Apollo?
Simplement satisfait, je suis à 100%. Je peux le dire en anglais, c'est possible.
Like, oui.
I have all my heart, yes. How my heart is like based on like Apollo. I wanted to make it successful
donc,
and everything.
Vous êtes entièrement dévoué à Apollo. Votre cœur est entièrement dévoué à Apollo.
Yes.
Et vous voulez que ça marche.
Yes.
Et vous voulez vraiment que ça réussisse.
Yes. Bon, je sais que ça marchera vu que c'est imminent. Et en plus, la chose la plus importante, c'est que c'est vital pour l'Afrique. C'est vital pour l'Afrique. Il faut que l'Afrique puisse embrasser Apollo et nous serons tous heureux du résultat.
Merci beaucoup, Cheikh. Ça a été un plaisir de vous entendre répondre à nos questions.
Ce fut un plaisir, toujours heureux de partager des moments avec vous. Merci beaucoup.
Vous venez de suivre Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS Systems, doctorant en ingénierie management et surtout inventeur d'Apollo, une application qui facilite la télésurveillance et la téléconsultation des malades. À présent, nous vous invitons à suivre Carnet de santé, présenté par Mouamadou Oumfa.
Nouvelle édition de Carnet de santé avec un focus sur les vacances d'été et la pandémie du Covid-19. Au menu, la levée progressive des mesures de confinement dans quelques pays. Des Kenyans nous diront ce qu'ils pensent des vacances d'été cette année 2020. Nous verrons ici aux États-Unis comment les Américains abordent cette période délicate. Nous écouterons les recommandations d'un spécialiste, les détails dans cette édition de Carnet de santé. Salut à tous. Depuis le mois de mai, plusieurs pays ont amorcé la phase de déconfinement. Prudemment, en faisant parfois volte-face, ici ou là, les gouvernements lèvent progressivement les mesures de restriction mises en place pour contenir la propagation du nouveau coronavirus. Un processus de déconfinement qui passe par la réouverture des frontières, la reprise des vols, les restaurants, bars, hôtels, plages et autres sites touristiques recommencent aussi à s'animer. ce qui coïncide avec le début de l'été, période de haute activité touristique et un moment habituellement choisi pour les vacances ici et ailleurs. Malgré le déconfinement, sinon à cause du déconfinement, les cas positifs ne cessent d'augmenter et la psychose autour du Covid-19 demeure. De quoi décourager de potentiels touristes et vacanciers. Regardez ces avis recueillis à Mombasa, au Kenya.
Personnellement, je ne me sens pas en sécurité pour voyager pour plusieurs raisons. L'une étant que la communauté ou le public n'a pas du tout accepté l'existence de la pandémie et adhéré aux règles qui ont été données par le ministère de la Santé. Par exemple, quand j'ai essayé récemment de me rendre à Nairobi, la façon dont je voyais les gens se comporter, il n'y avait pas de désinfectant pour les mains à l'entrée des espaces publics. Les gens ne portent pas de masque dans les transports publics. Et certaines personnes n'étaient pas très prudentes avec les mesures de distance physique. Donc, même quand j'ai essayé de l'appliquer, si les gens autour de moi ne le font pas, je ne fais pas grand-chose. Aussi, lorsque nous voyagions tout au long du trajet jusqu'à Nairobi, nous avons traversé différentes villes qui gèrent cette maladie de manière indifférente. Il y a des endroits où les gens ne considèrent même pas qu'elle existe. Vous verrez personne circuler avec un masque, personne n'observe la distance physique et personne ne se désinfecte les mains.
En ce moment, selon les statistiques qui proviennent du ministère de la Santé, je ne pense pas que ce soit sûr de voyager, jusqu'à ce que nous voyons les chiffres baisser. C'est à ce moment-là que nous pourrons décider de voyager, mais quand nous voyons les chiffres augmenter chaque jour, je ne pense pas que ce soit prudent, parce que nous voyons que les Kenyans n'observent pas les mesures appropriées en ce qui concerne le Covid-19. Il n'y a donc pas de sécurité maintenant pour voyager, à moins que des mesures appropriées ne soient mises en place dans toutes les gares, dans les aéroports, partout et même dans les bus.
En tant que personne qui travaille pour la communauté, je dirais que ce n'est pas très prudent. Il n'est pas du tout prudent de voyager et cela ne concerne pas seulement le transport routier. Combien de personnes respectent les règles lorsqu'elles voyagent? Ont-elles une sorte de certificat pour confirmer leur statut négatif ou positif? Parce que parfois, vous ne présentez pas de signes alors que vous êtes malade et vous utilisez les mêmes toilettes. Donc, ce sont des choses que vous devez considérer avant même de dire que nous sommes censés rouvrir les transports pendant cette pandémie de COVID-19.
Ici, aux États-Unis, les vacances d'été sont un véritable culte pour les Américains. Confinés pendant plusieurs mois, ils sont nombreux qui espéraient partir, se relaxer. Mais cette perspective s'éloigne au fur et à mesure que les cas augmentent et le doute s'installe. Arzuma Compaoré raconte.
Les vacances d'été ont toujours été une période sacrée pour les Américains. Mais cette année, il n'a pas été tendre envers eux. Alors que des dizaines d'acheteurs portent des masques faciaux dans des endroits comme Beverly Hills en Californie, au centre médical Oak Bend de Houston au Texas, cette salle d'urgence est pleine à craquer, obligeant les agents de santé en première ligne de la lutte contre le COVID-19 à déplacer les lits dans les couloirs. Au moment où mon nombre normal de patients arrive, j'ai déjà d'autres patients qui doivent attendre ici. C'est donc le défi auquel mes infirmières font face. Les autorités des villes telles que San Antonio et Corpus Christi au Texas commandent des camions congélateurs et des remorques pour les corps des victimes alors qu'elles se préparent au pire. Dans tout le pays, les Américains annulent des voyages soit en raison de la situation sanitaire locale, soit parce que les hôtels et autres établissements prennent des mesures pour faire face au Covid d'une manière qui rend le voyage moins intéressant. La semaine dernière, lors d'une interview sur Facebook avec le PDG Mark Zuckerberg, Anthony Fauci, le directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré que « Ce que nous avons vu était des clips vidéo de personnes dans des bars se rassemblant sans masque, ne restant pas à distance, en pleine foule. Et c'est ce que je vois au moins comme une partie de l'explication de la raison pour laquelle nous avons vu ces flambées. » Désormais, le port du masque déclenche des batailles politiques et juridiques alors que les cas de coronavirus montent en flèche. Dans le sud, le gouverneur de la Géorgie a intenté une action en justice contre le maire d'Atlanta et le conseil municipal, cherchant à bloquer un mandat exigeant que tout résident de cette grande ville porte un masque en public. Je suis convaincu que les Géorgiens n'ont pas besoin de mandat pour faire ce qu'il faut. Le mandat du port du masque du maire Bottoms ne peut pas être appliqué, mais sa décision de fermer les entreprises et de saper la croissance économique est dévastatrice. Franchement, c'est très simple. Porter un masque aide à arrêter la propagation de ce virus. Et nous continuerons donc à faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que les gens sont en sécurité. Les batailles politiques et juridiques continuent, d'autant que 2020 est une année électorale aux États-Unis. Pendant ce temps, des foules de baigneurs, pour la plupart sans masque facial, continuent d'affluer sur les plages de la Virginie et d'autres États américains. La fin de l'été, c'est bientôt, disent-ils.
Nous venons de le voir, certains n'entendent pas laisser le COVID-19 leur voler les vacances d'été. Malgré les risques évidents, ils ont franchi le pas et partiront profiter du soleil, retrouver leur famille, recharger les batteries. Comment réduire les risques de contamination quand on a choisi de partir en vacances? Nous avons posé la question au docteur Roger Étoile, il est médecin de santé publique.
La première des choses à faire, c'est de se tester, d'effectuer un dépistage, idéalement pour suivre la recommandation au Cameroun, de faire un dépistage de moins de 3 jours. C'est une recommandation qui est également applicable dans de nombreux aéroports internationaux. C'est-à-dire que faire un dépistage, notamment PCR, et non les tests de dépistage rapide qui sont des tests sérologiques qui ne sont pas acceptés dans certains aéroports et certains pays. Donc, la deuxième recommandation est de porter en permanence son masque pendant le vol. Parce que l'avion est un lieu confiné où la circulation de l'air reste la même pendant tout le trajet et donc un milieu propice à la propagation du virus au sein des passagers. Donc porter en permanence son masque jusqu'à l'atterrissage. La troisième chose est de respecter tout le protocole sanitaire international dans les aéroports d'arrivée. Cela va peut aller d'une simple déclaration de maladie pour certains pays ou alors à des protocoles plus rigoureux de tests, de désinfection complète avant la sortie de l'aéroport. La quatrième chose est évidemment de respecter un certain nombre de mesures de distanciation à l'arrivée. Je sais que la tendance est très grande après une longue séparation de faire des accolades, des embrassades avec les membres de famille qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Mais c'est une erreur. Il faut respecter ces mesures de distanciation. Pandémie oblige, ils seront compréhensifs en sachant qu'il faut limiter les contacts physiques. C'est dans la plupart des cas, c'est dans le milieu familial que se déroulent souvent les premières contaminations qui aboutissent à des clusters, c'est-à-dire à des foyers épidémiques de plus de 3 personnes. Donc, il faut respecter ces mesures de distanciation. Il faut respecter la quarantaine de 14 jours qui est généralement imposée dans la plupart des pays avant de sortir de son domicile. Il faut faire 14 jours et au besoin se faire dépister régulièrement tous les 14 ou un mois pendant tout le séjour au pays d'accueil.
C'est ici que prend fin ce programme. Continuez à nous envoyer vos questions et observations sur les plateformes numériques de VOA Afrique, le site web voaafrique.com, Facebook et YouTube. Merci d'avoir regardé Karim Santé. Prenez soin de votre santé.
Nous sommes arrivés à la fin de Votre santé, votre avenir. Nous avons parlé de la télésurveillance des patients avec notre invité, Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS Systems en Virginie aux États-Unis, avec une filiale en Côte d'Ivoire. Sekou Cheikh Bomba est aussi doctorant en ingénierie management et il a inventé Apollo, un outil important qui facilite la téléconsultation et la télésurveillance des patients et favorise aussi la promotion de la santé en Afrique. Après, nous vous avons proposé Carnet de santé présenté par Linor Moudou. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiro. À la présentation, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.